Ciné 7, l'émission cinéma de RKS.
I am your father.
On laisse pas bébé dans un coin.
88 miles à l'heure.
I'll be back.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On est de retour comme tous les dimanches soirs à 19h, toujours sur l'antenne de Radio RKS. On est tous les trois, la bande originale, de retour pour une nouvelle heure d'émission, une nouvelle heure de Ciné 7. Comment vous allez tous les deux ?
Salut, ça va et toi ?
Ça va bien.
Eh bah écoutez, ça va bien. On est de retour avec un thème qu'on vous a teasé il y a quelques semaines.
Qui a été reporté.
Qui a été reporté et finalement, on sait que vous le vouliez, que vous l'avez demandé. Donc, on est de retour avec. De quoi on va parler aujourd'hui les enfants ?
On va faire une sélection de films coréens qu'on devait faire du coup la semaine dernière, mais qu'on a reporté parce qu'on avait un peu oublié que c'était la Saint-Valentin.
Oui, on peut pas ne passer devant l'amour quand même.
Donc après avoir fait voilà les films italiens pour un pays différent, on va partir du côté de l'Asie.
Exactement. La Corée qui est un très gros producteur de films.
En tout cas, bon film.
Et qui est bien reconnu. Et c'est pour ça qu'on va vous en parler ce soir. Et puis on va attaquer tout de suite avec un film qui a quand même beaucoup fait parler il y a pas si longtemps.
Il y a un an. Deux ans. 2019.
En 2019. Vous connaissez,
vous allez reconnaître.
Et puis on se retrouve tout de suite après. Donc si vous n'aviez pas reconnu la musique, on va parler du chef-d'œuvre de Bong Joon-ho, primé avec la Palme d'Or aux Oscars. La Palme d'Or aux Oscars. La Palme d'Or à Cannes. Et Et 5 Oscars, il me semble.
Oui, 5 Oscars, voilà.
Exactement.
Premier film coréen à avoir eu l'Oscar du meilleur film étranger.
Bah, surtout, premier film international, puisqu'ils ont renommé la catégorie maintenant. Mmh. Premier film international à être nommé dans la catégorie meilleur film, tout court, oui. Et la catégorie meilleur film international. Il voilà. a eu les deux. Et c'est très rare qu'un film qui ne soit pas en langue anglaise, en langue américaine, soit qualifié pour le meilleur film.
C'est vrai, exactement. Donc c'est Parasite, hein. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais ça fait du bien de le redire aussi. Et quelle est l'histoire du film ? Pour raconter rapidement, c'est une famille de riches qui va se faire du coup parasiter par une famille un peu plus modeste, un peu plus pauvre, et qui, pour survivre, va un peu éliminer tout le monde dans cette famille de riches, mais tout le monde qui travaille pour eux, pour prendre leur place. Et donc, en fait, les deux familles vont vivre parallèlement, et l'une ayant le secret de l'autre.
J'ai jamais vu un aussi gros piston de ma vie.
Ouais, c'est vrai. Tout le monde se pistonne les uns les autres.
Voilà,
ils sont tous de mèche.
La famille se pistonne entre eux.
Et ils font en sorte de ne pas se connaître.
Et quand tu disais qu'ils se parasitent, enfin, les pauvres parasitent les riches. Non, les... Oui, ouais, c'est aussi l'inverse. Les riches parasitent les pauvres.
Oui,
chacun
aussi.
Se parasite
ouais,
les deux.
Ouais. Il y a une espèce de double jeu. Il y a une grosse question sociale derrière. Mais ouais, c'est un très bon film.
On peut se demander qui sont les gentils, qui sont les méchants dans ce film, des fois. On ne sait pas de quel côté on doit se mettre, parce qu'au début, c'est vrai qu'on peut s'attacher forcément... on s'attache peut-être plus à la famille moins riche, mais à la fin, il y a un retournement de situation qui fait que potentiellement, on apprécie l'autre camp.
Oui, pas forcément, en fait, s'attacher à la famille plus modeste, parce qu'au début, on voit qu'ils vivent dans la pauvreté et on a tendance à les plaindre. Finalement, rien de ce qu'ils font au cours du film nous encourage à avoir de la compassion envers eux, parce que finalement, on a même la compassion qui se développe envers la famille plus aisée, qui se fait totalement hijacker, quoi. Ils sont tranquillement chez eux, et alors là, il y a 4 personnes qui débarquent et qui court-circuitent un peu leur vie. Mmh. Et ce film, techniquement, la tendance serait plus de plaindre un peu les pauvres et de blâmer les riches, tendance qui a pris de l'ampleur ces dernières années... avec les mouvements « Eat the Rich ». Mais moi, je trouve que la tendance de ce film serait plus, finalement, à se dire « Ah, ils y sont peut-être allés un peu fort avec la famille riche, quand même ».
Oui, et puis on se demande aussi si la famille pauvre prend la place des autres, et comme tu as dit, un peu hijack la maison pour survivre et avoir juste un emploi pour vivre, ou est-ce qu'il y a des idées beaucoup plus sombres derrière ? Ça, on ne le sait pas... tout le long du film, quoi.
Mais le réalisateur, par exemple, Bong Joon-ho, il adore, lui, dans ses films, enfin, tous ses films qu'il a fait, dans sa filmographie, c'est des films qui parlent de l'opposement, l'opposement sociaux entre plusieurs catégories. Par exemple, il avait fait deux films, on va dire, qui marchaient plus outre-Atlantique avec des acteurs outre-Atlantique, donc c'était Snowpiercer, donc le transpersonnage, et Okja. Après, il est repassé du coup sur des films un peu le film coréen, donc du coup Parasite. Mais par exemple, dans Memory of Murder, Snowpiercer et Okja, ça parle d'un affrontement entre le riche et les pauvres. Il adore en fait un peu, c'est un peu son sujet de prédilection. Je sais pas si t'as vu un peu plus sa filmographie.
Oui, si, c'est vrai que même Snowpiercer qui a une série maintenant.
Ouais, il y a une série. Ouais. En fait, Snowpiercer, on va pas parler de ça, mais c'est une BD française qui a été adaptée en film et maintenant qui est adaptée en série.
Ouais. Mais oui, c'est vrai qu'il y a ces thèmes-là qui reviennent souvent.
C'est un thème comme un autre. Il y a beaucoup de réalisateurs qui ont un thème et qui s'efforcent à toujours faire le même thème dans des films un peu différents peut-être, mais toujours à peu près le même thème. Et là, c'est vrai que lui, il ne joue pas à la règle pour ça.
Ouais, on en a déjà parlé dans les nombreux focus qu'on a fait sur les réalisateurs souvent. Et c'est vrai qu'il y a soit le même thème, la même patte qui revient tout le temps. Et ça se retrouve aussi avec Bong Joon-ho.
Moi, ce que je regrette un peu, c'est qu'à l'origine, je me disais bêtement que ce film n'allait pas m'intéresser, parce que je ne m'étais jamais forcément intéressée au cinéma coréen. Et en fait, ma mère l'a vu au cinéma, elle m'a dit « j'ai vu un film sympa », et je me suis dit « raconte-moi tout, parce que de toute façon, je ne vais pas le voir ». Donc, je suis arrivée finalement devant Parasite avec l'envie de le regarder, en sachant déjà ce qui allait se passer. Et je vous recommande vraiment, en fait, en allant voir ce film, de ne rien savoir dessus, de ne pas faire de recherche, parce qu'il y a sans arrêt des petits retournements de situation, des petites choses. En fait, on se rend compte, j'en avais déjà parlé pour je sais plus quel film, mais c'est un peu le même système où en fait, on a l'impression d'être dans un truc qui s'arrête pas, en fait, d'être lancé dans une machine, et ça s'accumule, en fait, il y a des petites choses. D'abord, il y a le fils, après, il y a la fille, après, il y a le père. En fait, on a l'impression que On ne sait pas jusqu'où ça va aller et jusqu'où la situation va déraper, prendre de l'ampleur et dégénérer.
Alors moi, je suis moyennement d'accord du coup avec ton avis par rapport, dans le sens où il y a des retournements de situation à chaque fois. Personnellement, je trouve que tout le film jusqu'à la scène de la cave, donc pour ceux qui ont vu le film, vous le comprendrez, je trouve qu'on sait déjà ce qui va se passer avec du coup la famille est pistonnée par le père, la mère, la fille et le fils. Pendant tout le long, on sait exactement comment ça va se passer, mais c'est vrai qu'après, quand il y a la scène de la cave, là par contre, pour moi, c'est là vraiment que je me suis intéressé vraiment au film. À partir de ce moment-là. Mais avant, c'est vrai que pour moi, c'était assez basique et à ce moment-là, on va dire le milieu du film, c'est vrai que c'était pas le film qui m'a beaucoup fait accrocher. Mais après, ça a un peu titillé plus mon attention.
Et moi, pour revenir sur ce que tu disais, du coup, je l'ai déjà dit tout à l'heure, cette première partie de film, je trouve qu'elle se met en place assez rapidement. Et justement, j'avais cette tension-là et cet intérêt pour savoir, mais en fait, quel est vraiment l'enjeu derrière ? Est-ce qu'ils ont juste envie de survivre et d'avoir un boulot et du coup pour ça, pour survivre, eh ben il faut écraser les autres et prendre leur place et les mettre possiblement aussi dans la rue ? Ou est-ce que derrière il y a un autre enjeu, vraiment des enjeux d'argent, une arnaque, un crime en bande organisée entre guillemets, comme on peut le voir dans d'autres films ? Et effectivement, la scène de la cave dénote totalement avec ça, mais c'est, pour moi, la première partie du film était aussi assez haletante. Et le reste a découlé. Et effectivement, dans la deuxième partie, il y a ce que tu disais, Jade, avec des retournements tout le temps, savoir qu'est-ce qui va se passer, où est-ce qu'on va aller.
Oui, effectivement, la première partie du film, parce que je pense que le film est quand même divisé en deux parties. La première partie, les choses s'enchaînent avec beaucoup de fluidité assez facilement. Comme je disais, il y en a d'abord un qui arrive, puis l'autre. Et je sais pas si vous le faites, mais moi, pour savoir un peu où on en est dans un film, souvent je regarde combien de temps il reste. Et quand on voit que la famille s'est vraiment implantée, en fait, est venue parasiter l'autre famille, en s'immisçant dans leur vie privée, en s'immisçant dans leur foyer, là on voit qu'il reste facilement une heure et demie de film. Et on se dit, il y a quand même un truc qui va partir en steak très rapidement.
C'est sûr.
Et en vrai, c'est très difficile pour moi de catégoriser ce film parce qu'il passe par plusieurs genres. On va avoir des fois de la comédie, donc avec l'humour un peu subtil, mais très subtil par contre, de l'horreur et de la psychose. Donc du coup, quand je parle de la scène de la cave, pour moi, à partir de là, on bascule plus dans un film quasiment d'horreur ou vraiment épouvante, et un thriller aussi. Un thriller un peu psychologique avec une satire sociale derrière, mais c'est vrai qu'il prend pas mal de genres différents, avec même des... Alors pour ceux que... Enfin, c'est très rare d'avoir vu des films, des vieux films coréens, il prend un peu de cette patte-là, mais en même temps, il va prendre un peu à lui sa patte, et avec des nouveaux montages beaucoup plus fluides, et pour moi, ça rend très... Enfin, c'est très joli comme ça, c'est très joli visuellement.
Ça, c'est quelque chose d'assez caractéristique du cinéma coréen, en fait. Souvent, il mélange les genres, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le cinéma d'horreur coréen. En fait, on s'attend à avoir un film du début à la fin qui est trash, qui est gore, tout ça. Et on est souvent surpris parce qu'ils implantent des petites touches d'humour, des petites blagues un peu décalées, tout ça, pour nous déstabiliser et pour qu'on arrête en fait, de se méfier, d'être sur nos gardes. Je pense que c'est un peu la même chose qui se passe ici dans Parasite. Au moment où il y a trop de tension et qu'on sent que ça monte vraiment, ils désamorcent un peu le truc. Et quand on s'attend plus à rien, là, ça tombe.
Et pour moi, ça lui a fait du bien d'avoir tourné Snowpiercer et Okja, parce qu'il a pu avoir une vision assez différente du cinéma, donc du coup, cinéma un peu américain qu'il n'avait jamais touché. Et là, du coup, je pense qu'il a pris un peu d'inspiration coréenne, mais aussi américaine. Et pour moi, ça fait un beau mélange, et du coup, Parasite, pour moi, c'est, on va dire, son chef-d'œuvre avec Memory of Murder.
C'est vrai que c'est un très, très beau film. Moi, j'ai bien aimé aussi toute l'atmosphère. J'en ai jamais réellement parlé dans l'émission, mais c'est vrai que j'aime bien tous ces trucs-là, un peu, les atmosphères un peu pesantes, très sombres, et ça se retrouve dans la mise en scène et surtout dans la photographie de ce film. Il y a des tons souvent qui sont, je trouve, assez ternes, enfin du vert, de la terre.
Jaune pisse.
Oui, c'est vrai.
Charmant.
Non mais jaune pisse, quand on arrive dans les quartiers vraiment non aisés, ça fait très jaune pisse.
Et puis même la maison en fait, qui est censée être une maison d'architecte, une maison grand luxe.
Qui n'existe pas d'ailleurs.
Il n'y a rien de...
Non, cette maison n'existe pas, elle a été montée pour les besoins du tournage.
Oui, souvent ça arrive.
Ça aurait été beau sinon.
Ouais.
Ça aurait été une sacrée barre.
Après ça aurait fait comme les maisons d'Harry Potter, il y aurait des pèlerinages et... Oui. Ça devient invivable. Mais oui, mais du coup, ce que je disais, c'est que même cette maison qui est présentée comme la maison du grand luxe, d'architecte, d'intérieur, machin, tout ça, et ben en fait, on se rend vite compte qu'à l'intérieur, il fait très sombre. C'est souvent des tons qui sont noirs, sombres. Beaucoup de scènes de nuit. Enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais ce qui fait que l'atmosphère est très pesante. Et finalement, on ne sait pas, comme tu disais, on ne sait pas qui est le parasite de qui. Et on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on va. Et c'est ça que j'aime bien dans ce film-là.
Moi, vous savez que je fais des études d'architecture, donc je fais très attention à l'architecture quand je regarde un film. Et ce qui m'a plu, c'est que ce film, il m'a fait un peu l'effet d'un Shining, où il y a des moments où j'ai l'impression que la maison, en fait, c'était un personnage à elle seule. On a une maison qui est immense, qui est très soignée. On nous montre pas mal de pièces. Finalement, c'est une maison qui est assez dépourvue, enfin, elle est minimaliste, il n'y a pas grand-chose dedans. Et en fait, ce qui va faire l'identité de cette maison, c'est les gens qui l'habitent. Et là, cette maison, elle vit un peu une double vie avec la famille riche, la famille pauvre. J'ai trouvé hyper intéressant en fait, de voir comment cette maison s'adapte à son environnement. Vous voyez, quand c'est la famille riche qui habite dedans, on a quelque chose, bah, c'est dépouillé, il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas de grandes démonstrations de vie dedans. Puis après, quand la famille pauvre s'installe, par contre, là, ils prennent l'apéro, ils rigolent, ils font une petite soirée. Enfin, j'ai bien aimé voir ce contraste entre les deux familles et les deux façons de vivre.
C'est vrai.
Tant qu'on parle d'architecture, on peut souligner que bon, c'est très facile à découvrir ça dans le film, mais pour monter, on va dire... en fait, ils montent une espèce de petite... une petite rue, enfin même très très pentue pour pouvoir accéder à la maison des riches. Et quand ils vont devoir revenir chez eux, ils vont passer par des escaliers mais interminables. Vraiment, c'est pas 2-3 marches, c'est vraiment ils vont dans les bas-fonds de la ville. Et même justement, leur habitation est en dessous de la ville, enfin en dessous du trottoir, de la rue, pour vraiment signifier qu'ils sont plus bas que terre. Et aussi, donc, par exemple, dans leur maison, ce qu'on peut souligner, c'est que par exemple les toilettes sont au-dessus de tout. Et je sais pas si t'as remarqué ça.
J'avais pas remarqué.
Ils sont
ça.
C'est un peu tragique de dire ça, mais en gros, c'est pour dire que la merde est même carrément au-dessus d'eux. Enfin, ils sont débordés carrément. Et quand justement il y a la scène de l'inondation, en fait, il y a eu une forte pluie. Ouais. Alors, je sais plus dans quelle ville ça se passe. J'en ai aucune idée.
Non.
Mais en fait, il y a une scène où il y a une.
Parce que même leur nom de famille, je crois qu'ils le disent pas. Il me semble qu'on n'a pas les.
C'est vrai que les acteurs.
Il l'appelle Monsieur Kim. Ah, mais Monsieur Kim, c'est son prénom.
Je pense que ça doit être son prénom.
Bon, après, c'est vrai que les noms coréens, c'est pas non plus notre fort. On pourra faire une recherche, pourquoi pas. Mais du coup, il y a une scène où il pleut énormément, où en fait, il y a des inondations de partout. Et eux, forcément, bah, c'est les premiers touchés parce que c'est carrément sous le trottoir qu'ils sont. Et il y a les toilettes qui. Enfin, l'évacuation des toilettes qui remontent. Et en fait, les matières fécales quoi, qui remontent totalement. Et en fait, c'est totalement dégueulasse de voir ça. En fait, ça montre que vraiment la merde est en train de déborder de partout de leur côté.
J'ai votre réponse. C'est bien la famille Kim. Donc, ils l'appelaient par son nom de famille. Et ils habitent à Goyang, qui est dans la banlieue de Séoul. Donc, on imagine que la famille plus aisée vit à Séoul. Et sinon, la scène dont tu parlais, Marvin, moi, c'est une scène que j'adore parce que je trouve qu'il y a vraiment une photographie incroyable. Et tu disais qu'ils descendent plus bas que terre. Moi, j'y vois presque un peu une métaphore de Dante et de descendre dans les cercles de l'enfer, en fait, parce qu'ils commencent très haut. Et finalement, ils descendent et petit à petit, la caméra, elle est de plus en plus orangée, de plus en plus rouge. En fait, on va vraiment dans quelque chose d'infernal. Moi, j'ai eu cette sensation-là qu'ils descendaient vraiment aux enfers.
Oui, c'est vrai que sur la couleur, il y a ce contraste-là. Souvent, quand on est dans la maison... riche, et le fait qu'on soit en haut d'une rue pentue, on voit le ciel, c'est plutôt des tons qui sont verts, bleus, et en fait en descendant, bah, c'est la lumière jaune des rues, c'est beaucoup plus sombre, et donc il y a ce décalage aussi entre guillemets bleu-rouge qui se met en place, mais après plus crûment, en fait ils descendent les chaises sociales hein, tout simplement, quand on les voit descendre les escaliers et quand on les voit descendre la rue, ils sont en train de descendre la pyramide sociale où ils étaient tout en haut à servir la famille, enfin ils étaient tout en haut, ils étaient positionnés au niveau de la hauteur mais eux ne le sont pas, et en fait ils descendent effectivement plus bas que terre comme le dit Marvin puisqu'ils vivent dans une cave quoi.
Puis vous remarquerez aussi que dans la scène où ils redescendent chez eux, où ils prennent les escaliers et tout ça, ils sont souvent filmés de loin ou du dessus. Ça donne l'impression que c'est des rats, en fait. La façon dont ils sont filmés, on voit que des ombres qui se faufilent. La métaphore est vide.
Oui, et puis le fait qu'ils soient obligés de descendre et de subir ça sous la pluie, sans rien, tout ça, effectivement, ça montre qu'ils ont, ils ont même pas de parapluie, quoi.
C'est de la vermine, en fait, mais bon.
C'est vrai. Moi, j'avais juste... alors, c'est pas vraiment une incohérence, mais ça m'a fait un peu tiquer. C'est pendant tout le processus, du coup, de l'intégration des membres de la famille dans la famille riche. On sait qu'ils sont pas très riches, la famille Park, qui doivent... alors, c'est dit dans le film, enfin, c'est suggéré, mais qu'ils ont pas une bonne hygiène de vie. Et à un moment, pendant le film... ça arrive, mais pour moi ça arrive beaucoup trop tard, c'est justement par rapport à l'odeur corporelle de chaque personne. Ils le remarquent, en fait, ils ont une forte odeur. Et pour moi, au début du film, par exemple, quand ils font l'intégration et un peu la séance de recrutement, par exemple pour le fils qui devient du coup le prof d'anglais de la fille, comment ça se fait que là ils sentent pas qu'il y a une odeur bizarre, par exemple, alors que après pendant le film à chaque fois ils en parlent. Je sais pas, est-ce qu'ils prennent vraiment une bonne douche avant, je sais pas comment c'est foutu, mais
ouais, je pense. Après c'est souvent pour Monsieur Kim qui remarque quand même l'odeur.
Oui.
C'est plutôt lui, et le fait que ce soit son chauffeur qui soit dans la voiture, c'est un
c'est une
un endroit qui
fermée,
est beaucoup
ouais.
plus restreint que. Je pense que c'est comme ça que ça s'explique. Après, s'il faut chercher toutes les facilités scénaristiques dans tous les films qu'on regarde, on pourrait faire une liste aussi longue que le nombre de films qu'on regarde. Mais effectivement, je pense que l'explication la plus plausible, ça vient de là.
Je voulais juste rajouter. Je trouve que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un gros travail de ralenti dans ce film. Surtout dans les scènes un peu dramatiques. Quand, par exemple, il y a une effusion de sang, il y a une bonne recherche au niveau. En fait, souvent le ralenti maintenant c'est vachement. C'est daté un peu maintenant dans les films. Et là je trouve qu'il l'utilise vachement bien. Notamment par exemple quand il y a quelqu'un qui s'évanouit. Pour montrer vraiment à quel point la personne elle tombe totalement plus bas. Et ben en fait il y a un gros ralenti qui est fait. Je trouve ça très beau quoi.
Tout à fait. Mais pour vivre au ralenti, on en reparlera tout à l'heure. Dans le dernier train pour Busan, j'ai une critique un peu péchue là-dessus.
Oula! Sanglant.
Donc restez bien jusqu'à la fin, hein, surtout parce qu'on en reparlera. On va pouvoir passer au deuxième film. Et donc c'est Old Boy. On va vous passer tout de suite la musique qui s'appelle Cries and Whisper. Et vous restez bien sur RKS.
Thank you.
Et j'enchaîne avec Old Boy. Old Boy qui est sorti en 2003, réalisé par Park Chan-wook. De quoi parle Old Boy ? Ça va être très compliqué de faire un résumé court sans vous spoiler. Ça raconte l'histoire de Oh Dae-soo, qui un soir fait un peu la fête avant de retourner chez lui fêter l'anniversaire de sa fille. Et en fait, au cours de cette soirée un peu arrosée, il se fait arrêter par la police. Ensuite, il arrive à ressortir, mais en ressortant du commissariat, il se fait mystérieusement enlever. À la suite de cet enlèvement, il se réveille dans une sorte de prison, un espèce de tout petit appartement. Et on n'a aucune idée de qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi il y est. On apprend qu'il va y rester 15 ans, mais on ne sait pas pourquoi. Et on ne sait pas surtout qui a commandité l'enlèvement. Est-ce que j'en dis plus ?
Non, je pense qu'on peut préciser qu'il est libéré du jour au lendemain. Et que son mystérieux ravisseur le contacte pour qu'il découvre la vérité. Voilà.
Ouais,
je pense qu'on peut s'arrêter là et je pense qu'on peut pas aller plus loin.
C'est vrai que c'est important ça, de dire que lui va vouloir chercher la vérité, mais la vérité en fait arrive du ravisseur.
Oui.
Et qu'il le dit lui-même, la question c'est pas pourquoi je t'ai enfermé, mais pourquoi je t'ai fait sortir.
C'est vrai. C'est vrai. Que ça
mais je pense, je pense qu'on peut pas aller plus loin malheureusement.
Bah, c'est compliqué.
Faut vraiment découvrir ce film parce qu'il est, il est assez incroyable, mais si on commence à parler d'intrigue ou même du thème de ce film-là, c'est foutu. Donc je pense qu'on va s'arrêter là et par contre vraiment si vous voulez vous intéresser au film coréen, c'est vraiment un bon pas devant quoi.
Un bon point de départ. Ouais,
ouais franchement il est vraiment top,
Et ben on va essayer d'en parler quand même un petit peu. Alors déjà je trouve que les performances d'acteurs sont top. Je suis loin d'être une experte en acteurs coréens, donc moi je découvre dans chaque film de nouvelles têtes, de nouveaux personnages et j'ai trouvé quand même que l'acteur principal qui s'appelle Choi Min-sik était vraiment super, incroyable.
Oui, il passe par toutes les émotions dans ce film. Il a une palette qui est quand même assez large.
Il est super expressif.
Ouais. Et puis il a un rôle qui n'est pas simple hein, non plus, que ce soit pour le personnage et à jouer. Donc oui, effectivement, c'est une sacrée performance. Mais tous les acteurs, enfin les trois acteurs principaux du film ont quand même une palette assez forte.
Fait.
Ce qu'on peut souligner, c'est que pendant son enfermement pendant 15 ans, la seule chose qui le rattache avec le monde, c'est une télévision donc qui tourne en boucle avec des informations sur la vie, sur tout simplement la vie dans le monde. Enfin, dans le monde pardon. Du coup, ça peut être plus ou moins édulcoré ou justement plus ou moins assombri par les journalistes, par les infos, parce qu'on sait très bien comment les télévisions fonctionnent actuellement. Soit ils vont vraiment insister sur des choses, un peu un lavage de cerveau avec toutes les informations qu'on a, surtout en ce moment avec toute cette épidémie. Et du coup, c'est vrai que lui, quand il ressort, il est complètement perdu. Même s'il a eu des informations plus ou moins vraies, c'est totalement fictif la plupart, ou en tout cas c'est des rumeurs. Donc tu te mets à la place du personnage et tu te dis que vraiment il a été enfermé sans aucune interaction sociale, parce que moi c'est ce que je disais par exemple à Jade, quand on en parlait un petit peu avant l'émission, c'est que par exemple un prisonnier, il y a des gardes autour de lui, il y a des collègues à lui, enfin des co-détenus, donc il a des interactions sociales, il parle avec du monde. Lui, il est vraiment pour le coup tout seul, il a eu aucune présence, que ce soit masculine ou féminine, avec lui à ses côtés pendant 15 ans. Et il n'y a rien de pire, je pense, pour un humain d'être vraiment seul de chez seul.
Bah, la seule qui vient, je crois que c'est celle qui l'hypnotise. Et il dit qu'à un moment, elle est venue 3 ou 5 fois. Donc en 15 ans, ça ne fait pas
longtemps. C'est pas du tout. En l'espace de 15 ans, c'est rien du tout.
Ce qui est amusant, c'est que du coup, comme son seul divertissement, c'est la télé, il regarde absolument tous les programmes imaginables. Donc à un moment, il sait retrouver le nom d'un poisson, ou je crois qu'il connaît le nom de toutes les plantes, tout ça. Mais surtout, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que cette télé, lui, apprend que sa femme a été assassinée et qu'il est le principal, je ne sais plus comment on dit, le suspect principal, sachant qu'il n'a jamais quitté sa prison.
Et aussi qu'il a une fenêtre chez lui, mais c'est une fenêtre artificielle. En fait, il ne voit pas du tout la lumière du jour. Et ça, d'ailleurs, alors, je n'aimerais pas tenter, mais apparemment, le corps humain, quand il est privé déjà de tout ce qui est vitamine D avec le soleil, c'est vraiment pas bon pour son corps. Donc pendant 15 ans, j'imagine les stigmates.
Il le dit en plus à un moment qu'il est plus sensible à certaines choses, à certaines maladies, vu qu'il a été privé de soleil.
Ouais, c'est vrai que moi, sa petite prison, elle m'a fait penser à une chambre d'hôtel. Et déjà, passer 2-3 jours dans une chambre d'hôtel, c'est déjà pas la joie. Alors 15 ans, je m'imagine même pas. Et en fait, ce qu'il dit, pour revenir sur la télé, il lui dit à un moment, quand vous apprêtez à passer 15 ans enfermé, commencez à aimer la télé. Enfin, entraînez-vous à aimer la télé. Et moi, je trouve que c'est quelque chose que je retrouve beaucoup maintenant dans la société, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, pour des raisons X ou Y, ne peuvent pas sortir même de chez elles, hein, qui se retrouvent en gros enfermées chez elles, et encore plus en ce moment. Et malheureusement, bah, la télé, c'est le seul moyen de se raccrocher dehors. Et là-dessus, je pense qu'il y a un lien aussi avec ce qui se passe vraiment. Parce que lui, il a été forcé, contraint et forcé de rester. Mais il y a certaines personnes qui n'ont juste pas le choix de rester chez elles, de rester sur leur lit d'hôpital ou ce genre de choses-là, et qui n'ont comme autre interaction que la télé, quasiment. Et j'imagine la douleur que ça doit être, vu la qualité des programmes qui passent en ce moment.
Si vous êtes adepte de kung-fu, même de sport de combat, vous allez forcément aimer les scènes de combat dans le film Old Boy. Moi, je pense notamment à une scène où je ne rappelle plus son nom, Odessu, il revient dans la prison où il a été enfermé et il va combattre les sbires de celui qui l'a enfermé, du ravisseur. Et donc déjà, c'est un plan séquence, donc c'est tourné en une seule fois. Donc mine de rien, c'est un gros travail d'acting parce que bah, il ne faut pas se planter. Il y a une chorégraphie derrière où chaque coup est millimétré. Si tu te loupes, tu mets ton coup à côté, bah, ça va se voir, du coup, il faudra tout recommencer. Et aussi, il est vrai que, alors c'est Jade qui me l'a dit, donc excuse-moi, du coup je vais prendre ce qu'elle a dit, parce que je trouve ça vraiment super intéressant, parce que je l'avais pas du tout remarqué, mais ça me fait penser un peu à un jeu vidéo comme c'est tourné,
c'est vrai.
Genre un one versus one avec Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat, où en gros t'as deux personnages qui en plus ils sont en garde et ils restent en garde et
il y en a un de chaque côté de l'écran. On a le personnage principal qui est sur la droite, qui est pareil, comme tu dis, il nous fait un petit Rocky là.
C'est le player one.
Et à côté, à gauche, il y a les sbires, les vilains qui arrivent un par un et qui se font dégommer.
Et puis dans le sens où aussi la caméra avance, elle fait un travelling en fait tout le long pendant le plan séquence. Et à chaque fois, il y a de plus en plus de personnages et tu te demandes comment il va faire pour toujours, à chaque fois les abattre. Et bon, il a l'aide de son marteau, mais eux, ils sont aussi équipés de couteaux. D'ailleurs, il se prend un couteau dans le dos à un moment. Et il arrive quand même encore à leur mettre une bonne raclée. Et tout le long, en fait, c'est un peu comme les jeux vidéo où à chaque fois, t'avances, il y a toujours le boss final. Et tu te demandes, en fait, plus t'avances, c'est quand que ça va s'arrêter ce manège, quoi.
Et puis, tu parlais de facilité scénaristique tout à l'heure. En 15 ans de prison, il a le temps de s'entraîner, mais on l'a pas vu beaucoup s'entraîner non plus dans les scènes où il est enfermé.
Ouais, mais tu dis
bon,
qu'en
15 ans.
Ouais, déjà, ouais, mais tu dis qu'en 15 ans. Bah, il le dit à un moment, quand il cherche un peu les noises à un groupe de jeunes coréens, il dit est-ce que 15 ans d'entraînement fictif, est-ce que ça sert à quelque chose? Et après, il leur met une raclée et il dit oui, ça l'est.
Ouais.
Moi, ce que j'aime bien dans ce film, c'est qu'il y a pas mal de choses au niveau de la mise en scène, des couleurs, tout ça, qui sont un peu expérimentales. Où on a quelque chose de très travaillé, très recherché, et notamment à la fin de la scène de combat, on a un gros plan sur Odaisu qui est sur la droite de l'écran, et en hors-champ un peu pas focus, un peu flou, derrière lui, on voit toutes les personnes qu'il a dégommées juste avant, et c'est un plan, ça, qui revient plusieurs fois, notamment à la fin, quand il est avec son ravisseur, où on voit le ravisseur idem sur la droite, et on voit Odaisu à l'arrière, sur la gauche, un peu
dans un miroir.
Un peu dans le focus.
Effectivement, puis après, il y a aussi... à la toute fin, à la dernière scène, alors je sais pas si tu parlais de celle-là, mais l'avant-dernière scène, entre guillemets, où il cherche une rédemption, il y a aussi cet effet-là de miroir avec une double personne.
Un peu champ contre champ, voilà. Et c'est quelque chose qui revient pas mal.
Mm-hmm. Et si on parle de la couleur, donc il y a beaucoup de couleurs qui ont été utilisées dans ce film, et chaque couleur a un peu son thème. Notamment, par exemple, on a en fait quelque chose qui revient, je crois, deux fois de mémoire, où il y a un papier cadeau, enfin un cadeau, une boîte violette, ou quelque chose. Il y a une information dedans pour le futur du personnage, et ça représente un peu le passé. Nous avons le rouge qui peut représenter le désir ou même la vengeance. D'ailleurs, c'est le thème un peu du personnage, quoi, la vengeance. Directement, il veut se venger en fait de ceux qui lui ont fait ça. Et il y a aussi du coup le vert, je sais plus ce que ça veut directement, je sais pas si tu as la réponse, Jade.
Mais moi, le vert, en général, c'est l'espoir.
Peut-être. Parce que le vert est beaucoup utilisé dans ce film aussi.
Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai découvert ça en me renseignant un peu plus sur le film. Ce dont tu parlais, en fait, le violet. Il apparaît sur des espèces de gros cadeaux, un peu de paquets empoisonnés, de colis piégés. Et le motif sur ces cadeaux, j'essaye vraiment d'y aller doucement pour rien spoiler. Le motif, c'est un motif un peu de verre brisé. Et vous qui avez vu le film, vous comprendrez la référence à quel moment il y a du verre brisé avec un trou au milieu.
Oui, tout à fait.
Ah ouais.
Et ça, c'est parce qu'en fait, ces cadeaux... enfin ces colis là sont le moyen de pression par rapport à la raison pour laquelle il a été enfermé. Et c'est pour ça que ça revient avec l'élément déclencheur.
C'est vrai. Et puis tout à l'heure, Marvin, tu parlais du rouge qui signifie la vengeance et le désir. Ce film s'inscrit dans, entre guillemets, une trilogie oui. sur la vengeance.
Voilà, en fait, c'est donc du coup le réalisateur, comme l'a dit Jade, c'est Park Chan-wook, qui en fait fait... Alors, c'est un peu comme la trilogie Cornetto, dans le sens où c'est trois films qui ont un thème, enfin on va dire un thème ou des acteurs qui reviennent, mais c'est pas du tout la même histoire. Mais en fait, c'est, donc ça s'appelle la trilogie de la vengeance, tout simplement. Donc pour thème, du coup, c'est la vengeance, donc de plus ou moins différentes façons. Donc le premier qui est sorti, du coup, c'est All Boy. Ensuite, c'est Sympathy for Mr. Vengeance. Et ensuite, c'est Lady Vengeance.
Alors, tu sauras que All Boy est le deuxième.
Deuxième, pardon. Bien cool pas. Mais voilà, en gros, c'est ces trois films. Bien souvent, sur ces trois films, c'est All Boy qui est plus référencé. Mmh. Et d'ailleurs, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a eu un remake d'All Boy, sorti en 2013, réalisé par Spike Lee avec Josh Brolin et Elizabeth Olsen. Et Samuel Jackson, je crois, de mémoire. Qui en fait est beaucoup moins bien. Malheureusement, le souci c'est qu'en fait ils ont voulu faire un remake d'un film qui est pour moi, à mon sens, quasiment un chef-d'œuvre, ou même un chef-d'œuvre en tout cas pour le cinéma coréen, et qui est sorti beaucoup trop tôt, 10 ans après, entre 2003-2013, on a peu le temps vraiment de souffler de la claque qui est All Boy. Et en fait, ça marche pas du tout pareil. Il y a pas mal de scènes qui sont absentes du remake et qui pour moi fait tout le charme du premier.
Le problème, je trouve, c'est que c'est quelque chose qui revient assez souvent aux États-Unis, notamment l'année où Parasite est arrivé aux Oscars. Il y a pas mal de monde dans le jury, donc des professionnels qui sont quand même là pour noter des films, qui n'ont pas regardé Parasite parce qu'ils ont dit les sous-titres ça m'emmerde et ils n'ont pas fait l'effort. Le remake,
à
mon avis.
C'est un peu le problème des Américains, ça souvent.
Ils sont un peu feignants là-dessus. Le remake, à mon avis, découle de ça, de la volonté en fait, de rendre accessible un film étranger au grand public. Et du coup, bah, l'intention était louable, mais les façons de faire ne sont pas forcément nécessaires quand un film est aussi abouti et est un petit bijou à lui-même. Il n'y avait pas besoin de retenter quelque chose dessus. Il faut juste être un tout petit peu plus curieux.
Oui, puis on en a parlé il y a quelques semaines aussi avec le remake qu'ils avaient fait pour Intouchable. On s'est dit, mais en fait...
C'est la volonté de faire découvrir à l'américain feignant basique qui ne va pas forcément aller chercher un film avec des sous-titres.
Et pourtant, on en parlera la semaine prochaine. Puisqu'on vous en reparlera à la fin de l'émission, mais la semaine prochaine, on va parler de films français qui ont marché à l'étranger, surtout aux États-Unis, en tant que film français et pas en tant que remake.
Tout à fait. Et après, je dis ça, je tape un peu sur les méchants américains. On n'est pas forcément mieux non plus. On est un des seuls pays du monde qui traduit absolument tous les films qui passent au cinéma.
Et puis, on est un des pays qui vient de sortir un remake de la génialissime série This Is Us aussi, accessoirement.
C'est vrai, j'ai beaucoup aimé cette série.
Et apparemment, c'est nul. J'ai regardé les avis, c'est vraiment pas bon.
Bon, après,
là n'est pas le sujet.
Chacun y voit midi à sa porte.
Moi, j'aimerais que Kéliane, tu nous passes la musique caractéristique du film que j'aime tant pour qu'on fasse une petite pause et qu'on revienne juste après finir sur Old Boy.
Oui, bien sûr, sans problème.
Là, elle t'a pris de court, j'ai l'impression.
Non, comment
j'étais
pas prête.
J'étais en train de penser à autre chose, mais oui.
Elle s'appelle La Dernière Valse.
Oui, allez, on se retrouve tout de suite sur RKS.
Thank you.
Je vous parlais du coup de la scène du combat dans Oldboy avec le marteau. Ça témoigne d'une grande violence dans ce film-là. C'est pas la seule scène où il y a de la violence, donc on va pas forcément dire là où il y a de la violence dans ce film. Enfin, les scènes, on va pas les décrire. Mais si vous êtes pas adepte de la violence, peut-être faudra fermer les yeux à certains moments parce que il y a des scènes, ça te retourne un peu l'estomac quand même. J'ai une personne à côté de moi qui m'a expliqué que quand elle a vu ce film-là, elle a dû fermer les yeux à des moments. Hein.
Je me sens pas visée.
Non.
Moi, ce que j'aimerais vous dire pour vous mettre un peu en garde, c'est que ce film, il est quand même assez particulier. Donc, il y a de la violence, il y a du gore, il y a du trash. Le scénario, on peut pas vous en dire beaucoup plus, mais le scénario est quand même assez barré. Et il y a un petit twist de fin, mais alors... accrochez-vous. Mais surtout, je pense qu'il faut vraiment se faire violence, même si au début, on a un peu de mal avec le film, parce qu'on a un film qui commence avec pas mal de métaphores. On a une fourmi géante dans le métro. On a des trucs, des fourmis qui arrivent sur le corps de Odaisu. Il faut passer outre ça, parce que le film, je trouve, il perd ce côté un petit peu fantaisiste assez rapidement, au bout de la première demi-heure, et après, on rentre vraiment dans le vif du sujet.
Juste, je voulais signaler un truc, je viens d'y penser vraiment à l'instant quand je viens de parler, par rapport à elle me parlait du début du film. C'est qu'au début du film, on a un plan sur Odaisu qui tient un homme par une cravate, enfin par la cravate pour pas qu'il se suicide. Et ça me fait penser à une scène finale dans ce film-là.
Une très belle scène.
On va pas dire de quel personnage ça se situe, mais en gros, c'est un effet miroir, quoi. C'est la même chose.
Et d'ailleurs, l'acteur qui joue le personnage qui veut se suicider, on le retrouve apparemment dans les trois films de la trilogie.
Eh ben, je ne savais pas. Parce que j'ai vu que Sympathy for Mr. Vengeance, mais j'ai pas le souvenir. Enfin, ça peut être un gros rôle. Je m'en rappelle pas. Mais voilà, en tout cas, je viens de signaler que la scène finale et la scène du début, c'est en tout point quasiment les mêmes scènes, avec des acteurs différents.
Et moi, j'avais un mini coup de gueule aussi. Alors, je pense que c'est ma version qui était... peut-être pas forcément l'officielle.
Une version pas piratée.
Mais non, pas jamais, ici jamais. Mais il parle de... À un moment, quand il sort, il veut retrouver les fameuses raviolis qu'il a mangées pendant 15 ans. Et il dit que je retrouverai...
J'ai eu trop faim en voyant ce passage.
Ouais, c'est très bon. Jure. Mais sauf que j'aimerais rendre à César ce qui appartient à César. Ce ne sont pas des raviolis, ce sont des gyoza.
Oui, mais on appelle ça des raviolis japonais, il me semble en français.
Ouais, mais...
C'est pour ça.
Il vaut mieux
les appeler
gyoza.
Mais c'est des raviolis, les gyoza. Mais par contre, ouais. c'est pas juste pour le plaisir qu'il les mange, les gyoza, vous avez
non,
compris.
Bah oui, bien sûr, il veut
retrouver la trace.
Exactement. Ah non, mais bien sûr.
Il a quand même de sacrés papiers gustatifs, cet homme-là, hein, parce que pour retrouver dans toute une ville des gyoza.
Parce que même si je peux manger tout le temps les mêmes gyoza, si on m'en fait manger une autre paire, je pense que je ne retrouverai pas à l'exactitude.
C'est parce que t'as pas goûté les miens. Bon, on enchaîne.
Allez, on peut y retourner. On va retourner avec un peu de musique. La dernière qu'on va vous passer aujourd'hui, elle s'appelle Goodbye World et c'est la bande originale du dernier train pour Busan. Vous restez bien sur RKS. On se retrouve tout de suite après. Thank you.
on va vous parler du film coréen Dernier train pour Busan, donc réalisé par Sang Yoo-yeon. Alors excusez-moi pour les noms, je vais essayer de faire au mieux, c'est très compliqué, mais voilà, Sang Yoo-yeon, sorti en 2016, qui est dans le genre horreur-action. C'est un film de zombies qui, on va dire, s'inspire des premiers films de George Romero, et le réalisateur en fait était très fan de George Romero. Et Monsieur Romero, si vous avez des fans comme ça, franchement, bah tant mieux pour vous, parce qu'il a réalisé un super film. Parce que c'est vrai que les films de zombies, c'était pas trop en vogue. Il y a eu un moment où ça s'est soufflé beaucoup, et pour moi, il a donné un second souffle aux films de zombies. Et c'est très appréciable.
Mais surtout que les autres fans qu'il avait, ce Monsieur Romero, c'était quand même Simon Pegg et Nick Machin. J'ai oublié son nom.
Ouais.
Pardon.
Ouais. Nick Frost.
Oui, ça se retrouve aussi. Hein. C'est le type de. C'est un très bon film de zombies, hein, de toute façon.
Il est super. Donc, on va vous parler un peu du résumé. Donc, du coup, ça parle d'un jeune homme d'affaires assez débordé qui est divorcé de sa femme et qui a eu sa fille pour le week-end et qui doit la ramener chez sa mère. Dont la mère habite à Busan. Donc, du coup, c'est le titre du film. Donc, ils embarquent dans un train donc, en direction de Busan. Et pendant ce temps-là, il y a une épidémie de zombies qui se propage dans la ville, et une voyageuse en fait est contaminée par le virus, et elle s'infiltre dans le train et elle va semer la panique, parce que du coup le train c'est un espace fermé, c'est un huis clos, et il y a aucun moyen de sortir de ce train tant qu'il n'est pas en arrêt. Et du coup, en fait, le but, c'est un film survival. En fait, c'est un survival dans un train à huis clos avec très peu de sorties.
Et ça rappelle un peu ce qui se passe actuellement.
Ah, j'allais dire, ça nous rappelle un peu Snowpiercer, dont on a rapidement parlé.
Ouais, parce qu'il y a le thème, ouais, y a le train.
Oui, il y a le thème du train.
Mais,
ouais.
Mais c'était en plus réalisé par
Bong Joon-ho.
Ouais. Donc oui. On a un petit lien.
Ouais.
J'aime bien les huis clos. J'aime bien les trucs où on a l'impression qu'on ne peut pas s'échapper.
Oui, et puis si après on veut parler de huis clos dans le train, le meilleur c'est quand même le crime de Orient Express.
On reviendra pas dessus.
Bah justement, c'est intéressant ce que tu disais, qu'on n'arrive pas à s'y échapper. Moi, ça m'a fait penser un peu à un rêve interminable, enfin un cauchemar plutôt interminable, où vous savez, quand on fait des cauchemars, il y a toujours une succession d'événements tragiques qui arrivent, on n'arrive jamais à s'en sortir, et après enfin on se réveille. Bah là, le souci c'est qu'on se réveille pas, enfin, en tout cas les acteurs ne se réveillent pas, les personnages pardon, ne se réveillent pas dans ce film là ils sont toujours, il y a toujours une succession de mauvaises surprises qui arrivent, et les zombies sont de plus en plus violents et féroces.
C'est vrai que dans les films de zombies, on a souvent deux catégories. On a les films où les zombies sont lents, ils ont de tension, il leur manque un bout de cerveau. Et il y a les films où les zombies sont très vifs et ils font assez peur. Là, on est quand même sur un film où les zombies sont relativement réactifs.
Ouais.
Ils perdent pas de temps. Sinon, je pense que c'est un film qui plaît beaucoup à Marvin, parce qu'on a une belle histoire de paternité.
Oui, j'adore ça. Justement, le musique qu'on va vous passer, c'est par rapport à une histoire entre du coup le papa et sa fille. Pendant tout le long, en fait, le papa, on l'apprécie pas vraiment, parce que il s'occupe pas de sa fille. Il est assez égoïste. Il pense d'abord à sa sécurité, enfin à la sécurité de sa fille et à la sienne, mais il pense pas en fait aux autres voyageurs, parce qu'il y a d'autres personnes comme lui dans le train. Et au fur et à mesure du film, il y a un arc de rédemption qui est abordé dans ce film, et c'est très intéressant, parce que du coup à la fin du long métrage, c'est vrai qu'on s'attache beaucoup au papa. Et par rapport aux zombies, je voulais revenir du coup quand elle disait qu'il y avait ils étaient très réactifs, donc par exemple comme Mourant pour la 7 par exemple. Là, ils ont un défaut quand même, les zombies, c'est que alors je crois qu'ils peuvent entendre, mais si ils sont totalement ils ont plus de vue, enfin ils voient plus rien. Ils sont totalement inactifs.
Ils se mettent en veille. Ouais.
Voilà, ils se mettent en veille. Il y a pas mal de moments dans le train où ils passent dans un tunnel. Et en fait, le but c'est que quand le tunnel il dure longtemps, bah là il faut se déplacer rapidement, mais sans aucun bruit, pour justement essayer en fait de passer les voitures, des trains à chaque fois, et d'arriver sur une voiture qui est, on va dire, assez sécurisée.
Exactement. Et avant du coup mon petit coup de gueule que je vous ai promis tout à l'heure, effectivement cet aspect là. On attend le bon moment pour bouger et il faut avoir les bons mouvements pour pouvoir passer. Moi, ça m'a fait penser clairement à un jeu vidéo. Genre, on a l'objectif de traverser 5 voitures. Il faut calculer à quel moment on passe, comment on passe. Voilà, exactement. Moi, ça m'a fait penser à un jeu vidéo d'infiltration, discrétion et tout ça. Mais tu parlais de la réaction des zombies. Et effectivement, c'est des zombies qui sont très réactifs. Hein. Il suffit qu'il y ait de la lumière pour qu'ils puissent se retourner et le trouver.
Puis ils tapent une Usain Bolt.
Voilà, c'est exactement. Ils courent parce qu'ils n'ont plus que ça à faire. Mais par contre, je trouve que les êtres humains à l'intérieur de ce train sont d'une lenteur monstrueuse. en fait, pas en tant que quand il court, hein, mais c'est la réactivité. Et ma chérie a exactement la même, elle a eu la même réflexion que moi. C'est-à-dire que il y a en fait une espèce de drama à outrance dans ce film-là que je trouve. Par exemple, quand le zombie les repère et qu'il commence à courir, on a l'impression qu'il leur faut 8 secondes pour comprendre est-ce que je dois courir pour sauver ma vie ou est-ce que je dois rester planté là et me dire peut-être qu'il y a mon ange gardien qui va venir me sauver. Et ça, je trouve que ces temps d'attente, alors au départ peuvent jouer un peu, mais sur tout le long du film, deviennent vraiment, vraiment trop, c'est trop pesant sur la fin, où c'est vraiment tout le temps genre, un face cam avec de la musique onirique derrière, comme on a pu entendre là, et de se dire qu'est-ce que je fais, est-ce que je sauve ma vie, est-ce que je reste là, peut-être qu'il va se passer quelque chose, pour se dire, pour nous mettre du drama et pour nous donner l'impression que oh là là, c'est très grave, il va se passer quelque chose de très grave dans ce film-là, mais à force, ça devient trop pesant, j'ai trouvé. Et donc, cette lourdeur un peu scénaristique m'a un peu déplu.
Je suis pas forcément d'accord avec ton avis, même si je le respecte, évidemment. Surtout au niveau en fait, des réactions des personnages. Il faut se dire que dans les wagons, il y a la classe 1 et la classe 2. Donc, ça revient un peu par rapport à Parasite. Donc, il y a des hommes d'affaires dedans et il y a des gens un peu moins riches. Il y a aussi des personnes âgées dedans. Et en fait, ces personnes-là, ils sont tellement dans leur confort de vie, surtout en fait les hommes d'affaires et tout. Notamment, il y en a une, c'est vraiment une raclure dans ce film-là. C'est vraiment pour le coup, lui. Vraiment.
C'est la raclure du
voilà.
film.
Voilà. Et bah, c'est des hommes d'affaires. Ils ont un petit confort de vie. Ils ont jamais eu ça. Par contre, il est vrai que moi, je prends. Il y a des personnages qui sont très réactifs. Et je pense notamment à celui qui, pour moi, est le leader du film et c'est pas le papa. C'est celui qui. Alors, je me rappelle plus de son nom évidemment. Il va jouer bientôt dans Eternal du MCU. Donc. De Marvel, c'est un personnage, donc c'est un pape, enfin c'est un futur papa qui doit protéger en premier lieu sa femme qui est enceinte. Et ce mec-là, déjà d'une, je vais faire mon fan, mais il est hyper badass dans ce film-là. Quand il s'équipe avec des battes de baseball et lui il se met du tissu au niveau des poings et tout, j'ai adoré cette scène-là. Et pour moi, lui, il prend vraiment le lead du train. Et grâce à lui, c'est grâce à lui pour moi que la plupart vont en sortir indemnes. Mais il est vrai. Que la plupart sont assez lents, mais justement parce qu'il y en a, c'est des vieux, c'est. Je vais pas faire mon macho, mais c'est des petites femmes un peu sans défense et tout, ou même des petits vieux sans défense, ou même des hommes d'affaires sans défense, mais en gros, ils n'ont pas eu besoin de toute sa vie de se défendre, donc alors qu'on sait pas, peut-être que le personnage qui du coup va bientôt avoir un enfant. Peut-être qu'il est, là d'une famille un peu moins aisée et que du coup qu'il a dû quand même se construire lui-même et du coup peut-être se battre dans la rue, je sais pas, peut-être. Parce qu'il se bat quand même vachement bien, je trouve. Il a quand même eu du background, je pense, pour ça.
Tu parlais de l'acteur qui est aussi dans Parasite ?
Non.
Parce qu'il y a... Ah, donc j'ai pas dû suivre. Parce qu'un des acteurs de Dernier Train pour Busan, il est également dans Parasite, c'est Choi Woo-shik, celui qui joue le fils. Je sais pas si tu te souviens.
Oui, c'est celui qui bah, est dans le joueur de baseball.
Ouais.
Oui.
Non, mais on parlait pas.
Ok, bon, j'ai décroché.
Ouais.
Et c'est important de souligner aussi que c'est une trilogie de base. Enfin, de base. Ça a été fait une trilogie il y a pas longtemps, en 2019 ou 2020. Ouais. Pendant l'épidémie, c'est sorti le deuxième. Le troisième, pardon. Donc le premier, ça s'appelle Cellul Station. Donc c'est un court-métrage qui est sorti en 2012, je dirais, je crois. Je suis pas sûr. Faudra, je fais assez de recherches, mais je crois que c'est en 2012.
Il est sorti en 2016.
Non, ça c'est le.
Non, c'est Cellul Station, je vois 2016. D'accord. Film d'animation.
Ah bah, il est sorti la même année que du coup que. Voilà, donc en gros, ils ont d'abord fait un film d'animation qui parle de la même chose. Puis, Dernier Train pour Busan. Et là, ils ont sorti en 2020, qui a malheureusement pas marché. Et tant mieux, parce qu'en fait, il était vraiment pas bon. C'est. Peninsula, je crois que ça s'appelle. Ou en fait, là pour le coup, c'est vraiment pas du tout original. Ça reprend un peu les mêmes codes, mais ça marche tellement moins bien. Et pourtant, je comprends pas parce que c'est le même réalisateur qui, du coup, a réalisé. C'était son premier film, Dernier Train pour Busan. Il a voulu refaire
la même sauce,
sauf que là, ça a pas pris du tout. Alors, pas du tout, du tout. Il était très mauvais. Et pour moi, pour un premier film, il est très bon. Surtout dans un, comme je vous l'ai dit, un thème qui maintenant est un peu passé à la trappe.
Ouais.
Et qu'il arrive un peu à dépoussiérer à sa façon.
Et c'est aussi un peu pour ça que. Que Peninsula n'a pas marché, hein, je pense, parce que il y a un moment où les zombies, à tous les films, on en mettait, et là maintenant c'est un peu différent. Et puis,
c'est un peu daté aussi, ouais, comme genre.
C'est vrai, c'est un peu daté comme genre. Et puis ce que je disais aussi, c'est que on vit tellement ça un peu au jour le jour, un infecté qui va infecter tout le reste, que peut-être qu'on a envie de passer à autre chose quand on regarde un film.
On peut se demander un peu dans ce film qui sont les zombies en réalité, parce que il est vrai que le groupe de vivants, ils agissent. hyper égoïstes déjà dans un sens. Ils sont prêts à tout pour sauver leur peau, quitte à sacrifier des passagers du train qui sont par exemple des enfants, qui sont enceintes, des mamies. Vraiment, ils en ont rien à foutre pour la plupart. Ils veulent juste vraiment sauver leur peau. Et ils sont tous, alors pendant le film, ils sont tous un peu scotchés sur leur téléphone pour essayer de choper des infos et appeler un peu leurs proches. Et ça fait un peu une satire sociale pour moi, dans le sens où chacun est un peu dans son petit monde et il ne va pas aider son prochain. Alors que là, à ce moment-là, pour moi, c'est important dans une épidémie, dans un train avec un virus à bord, et du coup, une tonne de zombies. De commencer un peu à penser un peu aux autres, quoi, tout simplement, et pas penser qu'à sa gueule.
Je pense qu'on va pas tarder à conclure l'émission.
Je pense qu'on
et
a fini.
Avant le top de Marvin, moi j'aimerais quand même vous dire, à vous qui nous écoutez, intéressez-vous au cinéma international, parce que là...
Il y a de belles choses à aller chercher et des choses différentes.
Il y a de très belles choses, ça sort de l'ordinaire, et on a des films qui sont hyper recherchés, hyper aboutis, qui visuellement sont des vrais claques. Il faut un peu sortir de sa zone de confort, faire autre chose que du français, de l'américain, et aller voir ce qui se fait un peu ailleurs.
On va pouvoir passer au top de Marvin.
Mais oui.
Et ben,
je demande ton top.
Non, commence Marvin.
Tu veux que je commence?
Ouais.
Et ben, pour moi, ça va être Old Boy, Dernier Train pour Busan et Parasite. Même si j'ai préféré comment ça a été tourné Parasite et je trouve que c'est un meilleur film, mes choix du cœur, j'ai préféré regarder Dernier Train pour Busan.
Moi, ça va être Parasite, Old Boy et Dernier Train pour Busan.
Et moi, je vais faire le...
Tu vas à contresens?
Non, je vais prendre le même que toi. Parasite, Old Boy et Busan. Ouais.
Quoi qu'il en soit, je trouve que les trois films sont très bons.
Oui, c'est trois très bons films. Et puis même quand on parle de cinéma coréen, c'est les trois grandes pointures, trois grosses références.
Il y en avait d'autres, mais on a pris trois réalisateurs différents et c'est pas plus mal, quoi.
Et je voulais noter aussi que Busan, enfin, le dernier film pour Busan est sur Netflix. Pour ceux qui veulent s'intéresser.
Il est vrai.
Ouais. C'est vrai que nous, de semaine en semaine, on choisit des films. Alors parfois, les sélections peuvent être un peu critiquées. Je pense à mon papa qui n'était pas super content de la sélection sur Matt Damon. Désolé, papa. Mais on prend aussi des films qui nous intéressent, parce qu'on n'a pas forcément envie de parler de films qui ne nous intéressent pas. Des films qui sont susceptibles de vous intéresser, vous. Et surtout, on essaye de diversifier les genres pour avoir plein de choses à vous raconter.
Exactement. La semaine prochaine, de quoi on va parler?
Bon,
on l'a déjà dit,
mais
on va parler des films qui ont marché outre-Atlantique, qui sont des films français.
Ouais.
Donc, alors, on a déjà parlé par exemple d'un Intouchable qui a beaucoup marché, donc on va en prendre d'autres. Donc, on va avoir La Haine de Mathieu Kassovitz, Amélie Poulain, enfin le fabuleux destin d'Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet, et The Artist.
Exactement.
De Michel
Hazanavicius. Voilà. Et puis Instant promo, Jeanne.
Instant promo, et bah.
On vous parle toutes les semaines, hein, ça se rapproche, on y est presque, on est à. Si je me trompe pas, deux semaines.
On est le 21.
Ouais.
Donc le 7 mars, ouais.
Ouais, c'est ça.
On vous a dévoilé semaine dernière nos beaux sponsors.
Nos beaux sponsors, et puis, et bah voilà, hein, on n'a pas énormément de nouveautés à vous le dire pour l'instant, puisque il faut que la surprise reste, hein, mais. Ce qu'il faut savoir, bah, c'est que maintenant, vous le savez, la fiche tourne. Si, n'hésitez pas à la relayer, n'hésitez pas à vous faire un retour. Et surtout, on vous attend nombreux, du coup, le dimanche 7 mars à 19h. On rappelle, en direct à la radio, comme chaque semaine, mais surtout, en direct aussi sur Twitch, donc sur twitch.tv/radio-rks. Et puis voilà. Puis
on va pas mettre la charrue avant les bœufs, mais là, l'émission Star Wars se rapproche. Et sachez qu'on est déjà en train de plancher sur la prochaine.
Oui, bien sûr. Mais on va d'abord passer la Star Wars avec vous.
J'essaie d'allécher un peu.
Bien sûr. Mais d'autres arrivent et des surprises encore plus grosses arrivent pour les prochaines. Mais il faut que vous soyez là et qu'on soit là et qu'on fasse quelque chose de propre avec vous. Et que vous n'hésitiez surtout pas à participer et à nous faire vos retours. C'est le plus important.
Bon, on a fait le tour.
On va clôturer.
Voilà. Et bah, comme chaque semaine, passez une excellente semaine. Nous, on se retrouve avec joie dimanche prochain à 19h pour les films français qui ont marché outre-Atlantique. Et puis, on vous espère tous en forme et avec une très bonne semaine. On vous laisse avec Flo et la rediff des morceaux de nous. Passez une très bonne soirée sur RKS.
Bonne soirée.
Et une bonne semaine.